par la municipalité. Mais j'ai beaucoup aimé l'intervention de Pierre Boivin, qui n'est pas le dernier venu là, à cet égard-là sur le financement des projets, qui répétait, si ça a pris si longtemps avant d'arriver maintenant à un démarrage où tout le monde est sur la ligne de départ ensemble, c'est justement pour cet enjeu-là d'infrastructure que les municipalités, c'est pas vrai qu'avec leurs taxes foncières, ils sont capables de pouvoir les financer. C'est pas vrai qu'avec le rendement qu'il va avoir sur les logements qui seront là, puis juste la densité, on peut juste se baser là-dessus. Mais on était content aujourd'hui de pouvoir rassembler la bande d'infrastructure du Canada qui dit, ben, elle veut jouer un rôle dans ce secteur-là. Parce que pour nous, là, ça va être vraiment un flagship pour le Québec, sinon pour le Canada, dans le type d'éco-quartier qu'on peut développer, où on peut y faire du logement qui répond aux capacités de payer de la population.
Bien, ce que tu nous dis, c'est en gros, s'il n'y a pas d'intervention de la Banque du Canada, la ville, juste avec l'argent des taxes qu'elle va récupérer, ça ne suffit pas.
Non, il faut un partenariat. C'est vraiment dans cette optique-là. Un partenariat du fédéral, un partenariat du provincial, la Ville de Montréal, les développeurs privés aussi qui sont au rendez-vous, mais bien évidemment des grandes institutions qu'on s'est données, comme la Banque d'investissement du Canada, qui comprend l'importance de pouvoir préparer ces terrains-là pour qu'ils soient prêts au développement. Puis aujourd'hui, on a vraiment cet alignement-là. On est toutes parties sur les mêmes conditions gagnantes qu'on définit ensemble pour pouvoir rapidement avancer sur le développement.
Après, il restera au promoteur, au propriétaire, à celui qui répondra oui à l'appel d'offres, de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Parce que tu sais que dans d'autres secteurs de la ville, il y a des entrepreneurs qui disent oui, c'est moi qui va développer ce terrain-là. Après appel d'offres, ils gagnent l'appel d'offres, puis après ça, ils attendent pendant des années parce qu'ils veulent développer plus que ce qu'ils ont dit qu'ils allaient développer.
Exact. Mais là, on arrive avec une densité vraiment intéressante. Là. On le dit, là, 20 000 unités, là, on est dans la rentabilité, mais c'est une densité qui est vraiment très bien répartie sur le territoire. Autre chose, on possède le foncier, le terrain sur l'hippodrome. C'est à nous autres. Là. Donc, on peut mettre les conditions en conséquence sur l'hippodrome. Après, tout le volet Namur, on en possède une partie via la SHDM. Ça peut nous garantir que ce sera un développement aussi à l'abri de la spéculation. Puis, on a notre réglementation pour les terrains qui sont détenus par des privés, comme par exemple Smart Center, où ils contribueront en vertu du règlement pour le Métropole Mix. Mais sur les terrains de l'hippodrome, là, cette volonté-là, puis j'ai jamais vu ça depuis ma courte carrière jusqu'à présent en politique, trois ordres de gouvernement qui disent la même chose. On veut que ce soit sur le site public de l'hippodrome à 100% à l'abri de la spéculation. Même le privé le dit, là, je veux dire, Claridge et compagnie qui est dans à l'intérieur du galop, ils veulent des unités à l'abri de la spéculation qui vont répondre à peine de réalité du logement étudiant à la mode utile, par exemple, ce qu'on peut faire avec Interloge pour les familles en type copropriété, peut-être des modèles de RPA aussi qui sont rentables, mais qui vont pas croître en même temps que le marché dans le temps pour nous permettre de la résilience aussi sur l'abordabilité à long terme.
Excellent, c'est un très, très beau projet, vraiment en 20 secondes. Là. Est-ce que j'ai cru comprendre que le boulevard qui est adjacent au Beau Parc, il va se connecter sur Cavendish?
En fait, ça va se connecter en premier vers Paris. Cette connexion-là, c'est la première phase du projet de connexion, de désenclavement. Mais ça va se connecter par le transport collectif structurant, mode type tramway. Par la suite, les autres étapes de Cavendish, il faut revoir. Il y a les emprises d'Hydro-Québec qui s'en viennent. Les prochaines phases sur cette connexion-là sont pas encore définies. On est en train de travailler avec les différents partenaires.
Merci beaucoup pour tous ces détails qui nous en apprennent beaucoup plus sur le projet. Robert Baudry, responsable de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal. Bonne journée.
Bonne journée, Luc. Merci.
Au retour, Marie-Ève Tremblay.
Kevin Rimouski, RCFX-FM 93. La référence en information.
Conseil de ville, ça a été d'une tranquillité là, puis d'un ordre absolu hier. Il y avait une douzaine de citoyens dans la salle et ça s'est déroulé là de façon là, très ordonnée pour une fois. Les gens là, qui font du grabuge ou qui sont impolis, grossiers devant le micro et envers les citoyens et les membres des employés du conseil pourraient être poursuivis en justice. Il n'y a plus personne qui en veut, les Jeux olympiques.
Sais-tu, je pense que moi le premier, il reste que c'est une affaire de gros sous.
Ouais, ouais.
Et la Grèce, dans les mois qui ont suivi les Jeux olympiques, c'est là que les problèmes financiers ont commencé à arriver.
Les partisans de l'Océanique voulaient jouer contre les Eagles, mais faut pas les prendre à la légère. En deuxième moitié de saison, là, donc après les fêtes, ils ont le quatrième meilleur dossier de toute la LHJMQ. On pensait que le Canadien était faible. Le Kraken, c'est quelque chose de rare.
Réveil Rimouski à CFXFM 93.
Envie de découvrir ou de redécouvrir les produits et services de vos entreprises coup de cœur? C'est au Salon des exposants Réseau VIP que ça se passe. Avec une trentaine d'entreprises, animations, prix de présence et entrée gratuite. Le 27 avril de midi à 16h à la salle Louis-Philippe-Anctil de Lusville. C'est le sprint du printemps au Santé 2000. Profitez des promotions anti-inflation de Santé 2000 Le Club allant de 15 à 50% pour un été en santé. Joignez l'utile à l'agréable. S'entraîner à deux, c'est mieux et c'est moins dispendieux. On double les rabais sur les abonnements étudiants en duo de 3 et 6 mois. Santé 2000 Le Club est en mode anti-inflation avec des rabais allant de 15 à 30% sur nos abonnements en salle, les cours de groupe et les combos. Prenez votre santé en main à partir de 1,25$ par jour. Bienvenue au club. Inscription santé2000leclub.com, certaines conditions.
Notre résidence n'est pas seulement un endroit où vivre. C'est une véritable résidence de cœur. Profitez de notre grande salle de séjour pour lire un livre ou discuter entre amis avec une vue imprenable sur le fleuve. Tous nos services sont inclus dans un seul prix compétitif. Plus besoin de vous soucier des frais supplémentaires. Avec une réputation alimentaire impeccable et un personnel qualifié et humain, nous mettons tout en œuvre pour que vous vous sentiez chez vous. Prévoyez une visite maintenant. Les résidences de l'Immaculée de Rimouski, au cœur du centre-ville, 581-246-3515.
C'est fixe. FM 93. Une radio de champions dans une ville de champions. Michel Turcotte, alias Capitaine Champion. Émile Clouet, le champion des recrues. Une radio de champions dans une ville de champions. C'est fixe. FM 93.
Au réseau Cogeco, vous écoutez sans réserve.
Sans réserve.
Parce qu'il y a toujours une solution. Voici Marie-Ève Tremblay.
Vendredi, le jour où on reçoit le couple de l'alimentaire, de la restauration, de l'agriculture, de la bouffe, des préparations, des recettes,
t'as-tu
des
livres l'agriculture? De recettes.
Pourquoi pas? L'agriculture.
Je fais du jardinage.
Moi, j'ai toujours dit que la cuisine italienne, c'est une cuisine d'agriculteur. Parce qu'il y a très peu de choses composées. Là. Ils te mettent dans ton assiette d'excellents fromages, d'excellentes viandes, mais c'est pas cuisiné. C'est paf, paf, paf.
T'es très près du produit. Il y a des techniques, mais c'est vrai que c'est très minimaliste. Ouais. Ceci dit, ça vient du fait que c'est un endroit dans le monde qui était très, très pauvre, très longtemps, puis très isolé. Donc, on a appris à faire des petits miracles avec pas grand-chose.
Et ça, c'est magnifique. Et les produits en soi sont tellement bons.
Ben oui, ils sont perfectionnés.
Quand tu manges un bocconcini burrata, là, ben, c'est tellement, tellement, tellement bon que t'as pas besoin de bon, tu peux mettre un peu de pesto à côté, puis c'est tout.
Ben, tu mets du sel, puis une bonne huile d'olive parfaite qui vient de chez le voisin.
C'est, ben oui.
C'est en masse.
Oui. Hey, ça donne un goût.
Allez, je vais vous cuisiner quelque chose.
Il y a très longtemps, je faisais un voyage en Italie, puis autour du lac de Combes, il y avait un hôtel, l'heure de repas était passée, dit, on peut vous servir des charcuteries, des fromages. Tabac.
Pour parler avec moi,
face au lac de Combes, dans la montagne, il est arrivé avec un chariot de fromage, un petit morceau de ceci, une méchante tranche de ça, un petit morceau de cela, une autre méchante tranche, après ça, quelques viandes, des viandes coupées dans le jambon direct. C'était un buffet, là, c'était extraordinaire.
Mais ça me fait penser les fois où j'y suis allée. Moi, je fais de l'agrotourisme. On dit là-bas de l'agritourisme. C'est-à-dire que tu vas vraiment vivre sur des fermes. Il y a des espèces de maisonnettes. La première fois que j'y suis allée, c'était une ferme de, il y avait du citron partout dans les arbres. Elle faisait sécher l'écorce au soleil et tout ça. Puis on mangeait sur place et c'était effectivement les produits de l'endroit. Puis là, t'es chez les vrais Italiens, là, chez les vraies personnes qui sont là. C'est une réelle incursion. C'est une belle expérience. Puis ça ne coûte pas très cher. Ça coûte moins cher que les hôtels faire ça.
Tout à fait.
Puis on est aussi bien.
Ben oui.
Alors que la cuisine française, on s'entend, c'est composé.
Ça dépend de quelle région, parce que France, c'est pas uniforme. Hein? C'est beaucoup de départements du nord au sud. C'est une fédération un peu comme nous au Canada. On venait dans le même pays que les prairies, mais c'est très différent.
C'est vrai ça.
La cuisine française, elle est très structurée. Elle a été très codifiée. Les classiques sont les classiques, un peu comme la musique classique l'est. Tu peux pas faire n'importe quoi avec une partition. Ceci dit, c'est une cuisine de produits aussi. tu peux pas t'en sauver. Puis c'est drôle parce qu'on parle de recettes, on parle de livres aujourd'hui. Je trouve que c'est un beau lien pour poser cette question, hein, Marie-Ève?
Oui, et tu fais bien de mettre le sujet sur la table parce que...
Il y a un article, son tour.
Mais je trouve bon. Il y a un article dans la presse qui soulève une question. Est-ce qu'il y a trop de livres de recettes? Puis ils sortent des chiffres. On voit une baisse des ventes depuis 4 ans. En 2020, on en a vendu 352 000 copies. Puis en 2023, 188 000 copies. C'est une baisse de presque la moitié. Puis c'est vraiment la question qu'on soulève, est-ce qu'il y en a trop des livres de recettes? Puis toi, Dani, pour en avoir déjà publié,
oui,
qu'est-ce que tu
seul.
Penses? Oui, c'est ça.
Ben, je pense que c'est une très belle carte de visite. Mettons, exemple, je prends ma situation. Là, j'étais un jeune chef à l'époque qui avait un début de carrière médiatique. Je m'apprêtais à faire une quotidienne. Ça finit par être un bel outil de mise en marché. Si ça finit par être de la merch, comme on dit dans notre milieu à nous, là, c'est quelque chose que tu peux vendre quand tu monnaies ta notoriété. Ceci dit, est-ce que c'est payant? Ben, il y a des gros hits. On pense à Ricardo, on pense à José Di Stasio.
Geneviève Clément.
Oui, qui ont fait beaucoup de sous avec ça puis qui en ont fait une business. Mais je vous dirais que pour ma petite contribution au monde littéraire, là, c'était pas si payant que ça. Puis c'est de l'ouvrage en sac à papier, moi, dire.
Ah oui?
Ah oui, parce qu'il faut que tu testes tes recettes, tes retestes, tu fais des photos, c'est des journées interminables. Tu sais, le jeu vaut la chandelle si ça fait partie d'une stratégie qui est beaucoup plus grande que celle du livre. Mais je vous dirais que c'est du stock. Là. Puis probablement que les gens ont passé du livre aux médias numériques.
Ben justement, j'allais dire ça. Parce que est-ce qu'il y a un intérêt à en acheter encore? Je pense à Ricardo, Geneviève O'Gleman. Je veux dire, pratiquement toutes les recettes qu'on retrouve dans leurs livres, on les voit, on peut les trouver sur Internet.
Et en plus, tu peux voir le tour de main aussi, si tu regardes sur YouTube, tu sais, par exemple, tu fais une recette de base, tu vois le tour de main en même temps, tu sais.
Moi, je pense que les livres qui vont fonctionner, ce sont des livres un peu comme des livres de chevet ou des livres d'art contemporain. Tu sais, on sait que la gang de Mon Lapin vont faire quelque chose avec la maison d'édition Faidon, qui est une magnifique maison d'édition pour justement de l'art contemporain, de la cuisine, mais d'auteurs au travers du monde, de l'architecture. Tu vois, comme ça, c'est un livre qui va m'intéresser. Puis j'utiliserai pas pour les recettes, mais pour l'univers qui va être proposé, pour l'histoire qui va être racontée, pour les textes, pour les images.
Il y a Leslie Chesterman aussi qui en a fait plusieurs, là, puis qui ont gagné des prix.
Clairement.
L'édition française a gagné un prix, l'édition anglaise a gagné un autre prix l'année suivante. Elle les a cumulés. Là, pour elle, je pense que c'est un succès aussi.
Mais c'est pas la même affaire. Hein?
Pourquoi?
Ben, le livre dont j'essaie de parler d'architecture ou de le livre de chevet, le livre artistique.
Ouais, le livre de table.
C'est comme un témoin du temps, dans le fond, dans l'œuvre d'un chef ou d'une maison. Les livres de recettes de Leslie, c'est-tu quoi? Leslie, c'est un super bon exemple d'un livre qui fonctionne puis qui est excellent, là. Puis qui va, mais je pense pas que c'est la même mission. J'ai l'impression que le livre à vocation artistique va toujours être plus niché, mais fonctionner, puis peut-être à l'extérieur de notre marché aussi, tandis que le livre de recettes, ben t'es condamné à te battre contre l'Internet. Là.
Mais justement, quel type de livre en ce moment tire le mieux son épingle du jeu? Est-ce que ce sont les livres promus par des vedettes, celles qu'on a nommées, ou les livres spécialisés, exemple sans gluten, ou un autre juste tofu, ou un livre spécialisé sur les pâtes à l'italienne?
On se bat contre le marché américain aussi. Tu sais, tu regardes, les gens consomment beaucoup avec Amazon, puis ils consomment de toutes sortes de façons. Tu sais, tu veux un livre de Pâques, là, ben si t'es un petit Québécois qui sort un livre de Pâques, là, ben tu te bats contre une gang d'Américains qui ont des maisons, des powerhouses, comme on dit, là. Tu sais, comme 10 Speed Press, puis des trucs comme ça, puis tu fais, à quoi ça sert d'embarquer dans cette arène-là? Tu t'en vas te battre avec un crayon à mine contre des bazookas, là. Ça sert à rien.
Oh oui, puis ça me fait penser. Moi, il y a une femme que je suis, là, sur Instagram depuis des années, là. C'est la pasta queen.
C'est quoi ça?
Qui est incroyable. C'est une Italienne qui habite aux États-Unis puis qui fait vraiment de la cuisine authentique italienne. Puis, il y a un côté humoristique à son approche qui est incroyable. Comment elle termine chacune? Parce qu'elle a des grands cheveux bruns, pis c'est so delicious.
Ça, c'est caricature, là.
Exemple, la fameuse carbonara, où on sait, il y a pas de crème dans la carbonara.
Ah, oui.
Ben là, elle le met de l'avant, elle rit des personnes qui mettent de la crème, mais elle est ultra divertissante. Elle a publié des livres et moi, j'ai acheté son livre. J'ai rien fait du livre, j'ai tout feuilleté.
Ah oui, c'est ça.
Mais je me contente d'Instagram, mais quand tu parles de compétition mondiale, c'est-à-dire que si je veux acheter un livre de recettes italiennes, ben j'ai connu elle par l'entremise des réseaux sociaux. Je vais probablement acheter le sien où je sais qu'elle vient d'Italie, que c'est sa spécialité, peut-être plutôt que un livre de quelqu'un d'ici. Là.
Ben, je pense qu'il y a des trucs qui vont encore marcher. Exemple, on a tous une copie, les plus vieux d'entre nous, du livre Five Rose à la maison, là, qui est
Moi,
c'est la cuisine raisonnée.
La cuisine raisonnée, des trucs qu'on se transmet. Je pense qu'un espèce de petit grimoire comme ça, ça va toujours marcher. Il y a un bon exemple de succès international, c'est les gars de Joe Beef, à l'époque, qui ont sorti leur premier il y a une dizaine d'années, le deuxième il y a à peu près 5 ans, où il y a des recettes qui sont intéressantes. Tu vois le tournement du chef, tu vois l'histoire de la maison, un peu leur cuisine.